Les nuits de France Culture.
Les vieilles pierres, les voûtes, les croisées d'ogives et autres vitraux, mais aussi l'art cistercien, sont au programme de l'émission que vous allez entendre dans un instant, un numéro des Lundis de l'Histoire intitulé sobrement « Art et société au Moyen-Âge ». Au micro de l'historien Jacques Le Goff, qui est le producteur de cette émission, plusieurs autres historiens réunis pour aborder tour à tour l'art des abbayes et des cathédrales et l'organisation de la société et les rapports sociaux à l'époque médiévale. Georges Duby, qu'on ne présente plus, Pierre Toubert, Louis Grodecky et Carole Heiss. C'était le 20 décembre 1976 dans les Lundis de l'Histoire.
Que chacun suive sa propre opinion. Pour moi, je le déclare, ce qui m'a paru juste avant tout, c'est que tout ce qu'il y a de plus précieux doit servir d'abord à la célébration de la Sainte Eucharistie. Si, selon la parole de Dieu, selon l'ordonnance des prophètes, les coupes d'or, les fioles d'or, les petits mortiers d'or devaient servir à recueillir le sang des boucs, des veaux et d'une génisse rouge, combien d'avantages pour recevoir le sang de Jésus-Christ convient-il de disposer les vases d'or, les pierres précieuses et tout ce que l'on tient pour précieux dans la création? Ceux qui nous critiquent objectent qu'il suffit pour cette célébration d'une âme sainte, d'un esprit pur, d'une intention de foi. Je l'admets, c'est bien cela qui importe avant tout. Mais j'affirme aussi que l'on doit servir par les ornements extérieurs, des vases sacrés, et plus qu'en toute autre chose, dans le Saint Sacrifice, en toute pureté intérieure, en toute noblesse extérieure.
Le beau texte que l'on vient d'entendre, le texte de l'abbé Sugère, abbé de Saint-Denis, dans la première moitié du XIIe siècle, nous introduit au cœur du débat d'aujourd'hui. Car le débat d'aujourd'hui est consacré à l'art et la société au Moyen-Âge. L'occasion de ce débat, c'est la parution de deux ouvrages considérables de Georges Duby, Le temps des cathédrales, qui vient de paraître dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, et Saint-Bernard, l'art cistercien, publié par Arts et Métiers Graphiques, diffusé par Flammarion. Le débat de ce matin réunit autour du micro des Lundis de l'Histoire l'auteur, Georges Duby, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, deux historiens de l'art médiéval, Louis Grodecky, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne Paris 4, Carol Heitz, professeur à l'université de Paris 10, Nanterre, et un médiéviste que les auditeurs du lundi de l'histoire connaissent, Pierre Toubert, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Georges Duby, on vous connaît. Vous êtes un des grands historiens de ce temps, on peut le dire. Votre œuvre est une œuvre vaste. Vous avez eu la gentillesse de venir en parler, de participer à d'autres débats des lundis de l'histoire. On savait depuis longtemps que vous vous intéressiez à l'art comme domaine essentiel d'une époque et de sa compréhension, mais je pense malgré tout que vous surprendrez par la publication de ces deux beaux livres, même si l'un d'eux n'est pas entièrement nouveau, en écrivant « Le temps des cathédrales », dont le sous-titre est « L'art et la société 980-1420 » et « Saint Bernard, l'art cistercien », qu'avez-vous voulu faire? Comment ces ouvrages se placent-ils dans votre œuvre?
Je ne suis pas historien de l'art. Je suis historien des sociétés. Et pour moi, l'expression artistique est une trace, parmi d'autres, de l'évolution d'une culture, d'une civilisation. J'ai commencé, bien sûr, par étudier d'une manière assez approfondie les soubassements économiques de la civilisation médiévale. Et on m'a connu d'abord comme étant un historien des campagnes. Mais je rêvais de situer précisément le phénomène artistique au sein d'un ensemble et à la fois de prendre l'œuvre d'art comme le témoignage d'une certaine vision du monde et d'une certaine organisation des rapports sociaux, et en même temps d'aider peut-être à mieux comprendre la signification que telle ou telle œuvre a pu avoir au moment où elle a été conçue, et ensuite pour les hommes du Moyen-Âge. Si bien que dans le premier de ces deux ouvrages, dont j'ai écrit l'essentiel il y a bientôt 15 ans. Je me suis avancé vers un problème que j'ai posé de manière plus claire dans le livre sur l'art cistercien, qui date, lui, d'un an seulement dans son écriture. Ce problème-là, qui est un problème, à mon avis, fondamental, peut-être insoluble, c'est effectivement de relier l'évolution des formes artistiques à l'évolution des bases matérielles sur quoi s'inscrit l'évolution générale de la civilisation, et de situer cette œuvre également parmi les autres manifestations de la culture. Je dis que c'est un propos certainement très ambitieux, parce qu'il n'existe, à ma connaissance, aucune théorie valable qui puisse servir à l'historien pour s'avancer dans l'examen de ces relations complexes. D'autre part, il y a une autre très grande difficulté, c'est de saisir les relations entre le créateur, j'entends l'artiste, celui qui réalise un programme, et d'autre part, ceux qui commandent à cet artiste cette réalisation, ceux qui proposent, et d'autre part, de savoir exactement d'où vient l'incitation à l'intérieur de la société. Quels sont ceux qui sont les promoteurs de telle ou telle œuvre? J'ajoute enfin, et c'est une autre difficulté, que de l'art médiéval, de la création artistique médiévale, nous ne connaissons vraiment que ce qui a survécu, c'est-à-dire un art durable, un art lourd, un art construit dans des matériaux assez solides pour résister au temps. Mais toute une part nous échappe entièrement. Tout ce qui était fugace, tout ce qui s'inscrivait dans une matière qui était fragile, Oui, bien sûr, comme le bois. Ou comme le
transformable
tissu.
Et transformé, une partie de l'orfèvrerie.
Ou non précieuse. Si bien que, forcément, n'est-ce pas, notre vision de l'art du Moyen-Âge se concentre sur des œuvres majeures, et nous ignorons à peu près tout de ce qui pouvait être une création descendant dans les contrebas du peuple. Et évidemment, une œuvre comme celle-ci risque de me laisser apparaître comme attentif uniquement à ce qu'il peut y avoir de plus aristocratique dans cette civilisation, les lignes de fête du Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Mais en réalité, j'y suis contraint, n'est-ce pas ? Et n'imaginons pas que je sois inattentif à ce qui pouvait être une création populaire.
Oui, je crois d'ailleurs que sur ce point, vous êtes à la fois honnête, mais aussi profondément historien, car nous ne pouvons faire l'histoire qu'avec ce que nous en savons. Et il suffit, si j'ose dire, de cerner les lacunes et les zones d'ombre pour faire la vraie histoire que nous tentons tous de faire. Louis Grodecki.
Bien sûr, l'ampleur des vues de Georges Duby dans ces trois volumes réunis maintenant en un seul, étonne un peu l'historien de l'art, le surprend par la nouveauté de certaines perspectives, et aussi il lui fait apparaître la différence des méthodes qui président à sa recherche et à la recherche des historiens de l'art. Mais je pense à notre méthode, à nos méthodes, et spécialement à celles qui m'ont été un peu enseignées dans le temps, aux méthodes d'Henri Faucillon, qui était mon maître, et qui peut être justement exagéré, qui est poussé jusqu'à l'extrême, presque jusqu'à l'absurde, une méthode autonome de l'histoire de l'art. Faucillon aimait dire que l'œuvre d'art s'explique d'abord par elle-même. Il existe une autonomie de l'évolution, en tout cas une autonomie de la création de l'œuvre d'art. Ou plutôt, on va encore plus loin dans la définition, chaque œuvre d'art est une sorte de pôle d'attraction des raisons si variées, si multiples, de sources tellement complexes, que les meilleurs des analystes ne peuvent pas les deviner toutes, ni les analyser toutes, et que par conséquent, il doit renoncer aux hypothèses qui projetteraient dans cette œuvre d'art des ensembles de cultures et de civilisations trop vastes pour la définir, cette œuvre. Il faut qu'il s'attache d'abord à la définir par son propre effort, aussi loin que possible de la définir, lier ces œuvres d'art par des liens de dépendance, des liens d'évolution, de métamorphose, comme il disait. Et une fois cette évolution propre de l'œuvre d'art établie, on pourra chercher dans quelle mesure elle correspond à d'autres évolutions parallèles, dans quelle mesure ça correspond, dans quelle mesure ça ne correspond pas. Parce qu'il y a des phénomènes très évidents, de la non-correspondance avec l'histoire, de la non-correspondance avec l'économie, de la non-correspondance avec l'histoire des idées, bien sûr. Tout historien de l'art qui se respecte est historien aussi, et cherche justement à vérifier, à contrôler, si l'évolution propre des œuvres d'art, si ces chaînes des métamorphoses correspondent ou ne correspondent pas. Il est économiste, il se préoccupe du prix des matériaux, il se préoccupe du prix du travail. Il se préoccupe aussi de l'impact des idées, spécialement ceux qui font de l'iconographie. Mais sa propre recherche est plus restreinte que la vôtre et, à mon avis, plus prenante, parce que nous sommes beaucoup près de cette œuvre d'art, d'elle-même, de sa technique, de sa production même, n'est-ce pas ? Et c'est là, je crois, que l'historien de l'art, en vous lisant, découvre des perspectives nouvelles, comme je disais, mais en même temps, il voit sa propre lignée de travail.
Georges Duby ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis Grodecki vient de dire, et qu'on peut dire le tout objet culturel de ce que Marcel Guéroux a dit à propos des œuvres philosophiques. C'est qu'elles constituent effectivement des ensembles qui sont en soi le produit d'une certaine maturation. Et je dois dire, là très très publiquement, que bien évidemment, les livres que j'ai écrits n'auraient pas pu l'être sans, si je ne m'étais pas abondamment inspiré des travaux remarquables des historiens de l'art.
Carol Heitz.
Eh bien, moi, je me suis trouvé d'emblée parfaitement dans l'ambiance de vos livres, car mes études d'histoire de l'art, je les avais jadis commencées en Sorbonne, j'ai beaucoup apprécié ce que, par exemple, nous apprenaient nos vieux maîtres, comme Élie Lambert, mais la percée vers l'évaluation de l'art, son rôle dans la société, c'est Pierre Van Castel qui me l'a valu. Je trouve que la méthode de Georges Duby est à bien des égards parfaitement parallèle à celle que nous avons éprouvée dans d'innombrables séminaires à la 6e section des hautes études. Nous venons de parler des cisterciens et de la difficile mise en parallèle de l'art cistercien et des données matérielles. Il me souvient d'un séminaire, je pense, des années 62-63, où nous avions essayé d'examiner dans une perspective tout à fait sociologique les fondements de la cathédrale de Paris, voir si elle n'est pas l'œuvre de la cité. Et je dois dire, au bout de quelques mois, nous avons dû nous avouer que notre applique et que notre méthode ne touchaient pas juste. Il faut, je pense, comme vous le faites souvent dans vos livres, avouer ou s'avouer à soi-même l'impossibilité de la poursuite du chemin. Néanmoins, il faut tenter de gravir ce chemin qui est parfois périlleux, mais qui vous offre par la suite ou vous récompense de panoramas splendides. Oui. Et c'est de cela que je vous remercie.
L'histoire consiste aussi à poser des questions, à poser des problèmes, même si on n'en a pas la réponse et si l'on pense que parfois il faut à un moment changer de chemin. Pierre Toubert, votre point de vue qui n'est plus celui d'un spécialiste de l'histoire de l'art, mais comme je le rappelais tout à l'heure, d'un des principaux médiévistes d'aujourd'hui.
Après avoir écouté Georges Duby, Grodecki, Heitz, qu'en somme nous parlons de deux ordres de problèmes assez différents. D'une part, un problème qui est un problème théorique passionnant, c'est-à-dire le problème des rapports entre l'art et la société, c'est-à-dire entre l'œuvre d'art et l'histoire dans laquelle elle s'intègre. Mais que, parlant de ce problème général, et chacun d'entre nous, et je trouve très révélateur les références aux expériences personnelles qui ont été celles de Grodecki, de Heitz, de Faucillon, Franck Castel, etc. Nous parlons d'un autre problème, c'est-à-dire du problème du métier que nous pratiquons et des rapports qui existent entre les historiens et les historiens d'art. Et il ne faudrait pas perdre de vue le fait que ces problèmes-là se situent à un autre niveau. Au fond, je me souviens d'une époque où on n'était pas loin de penser chez les historiens. Et là, je me situe au niveau de la pratique du métier, que l'œuvre d'art nous apparaissait à nous comme un document, comme les autres, comme les chartes, comme les parchemins, etc. Que par conséquent, nous laissions bien volontiers aux historiens d'art, dans ce cas de spécifique, la formation qui est nécessaire pour la critique de ces œuvres, leur métier, mais qu'en somme, nous, historiens, il nous appartenait de recueillir la moisson et de lier la gerbe. Et inversement, les historiens d'art raisonnaient de la manière strictement opposée, c'est-à-dire qu'ils disaient, nous laissons aux historiens le travail bien ingrat de faire la critique des chartes et la reconstruction des sociétés, et nous arrivons justement pour nous placer au fait de cette construction. Et je pense que c'est dans ce sens-là, peut-être, que Georges Duby disait tout à l'heure que ce problème est insoluble. Parce qu'au fond, c'est une espèce souvent, ça a souvent été dans le passé, une sorte de dialogue de sourds entre des gens qui ne pratiquaient pas tout à fait le même métier. Bon. Alors, que le problème soit soluble, des livres comme ceux de Georges Duby nous en donnent la preuve, bien entendu. Ce que je voudrais dire en tant qu'historien, c'est que le problème historique qu'a posé en commençant Georges Duby, c'est-à-dire le problème fondamental, si l'on veut aller au cœur des choses, des rapports entre l'artiste et ceux qui dirigent sa main, doit se prolonger vers d'autres interrogations, c'est-à-dire l'artiste obéit certainement dans la plupart des cas, et peut-être toujours au fond, à un programme qui lui est imposé par quelqu'un qui a un esprit, qui a une idée. Mais en même temps, ce programme s'adresse à ceux qui doivent déchiffrer ce document. En somme, il y a d'une part l'artiste, en somme, est pris au milieu, entre deux pôles. D'une part, celui qui commandite l'œuvre, mais aussi celui qui la consomme. Et par conséquent, bref, c'est le problème de l'art et son public. Alors là, il me semble que la réserve qu'au départ faisait Georges Duby, c'est-à-dire qu'il était bien conscient que tout ce qu'il y a de populaire dans l'art risquait de lui échapper, fragile, fugace, en raison du matériau, etc., quand même par l'art, dans son essence aristocratique qui est restée jusqu'à nous, c'est en même temps un art populaire. C'est un art populaire parce qu'il a été fait par des gens qui le programmaient pour qu'il soit vu par le peuple. Et je crois que si nous devons trouver un point de convergence et une zone d'interférence où nos contradictions peuvent se résoudre, en historien d'art, c'est justement dans cette idée commune qu'elle est porteuse d'un message, qu'elle a un sens, qu'elle signifiait quelque chose pour les gens qui regardaient cette œuvre d'art, et que notre jugement ne peut pas se contenter d'être un jugement esthétique, un jugement uniquement sur la forme intemporelle, mais qu'il s'agit en somme de la restituer en fonction d'un public.
Parmi les grands problèmes que vous avez déjà évoqués, il y a donc ceux des rapports de l'art avec l'environnement social, il y a celui des rapports de l'art avec ses bases matérielles, celui des rapports de l'art avec le milieu culturel et plus précisément intellectuel, et puis il y a aussi le rôle des hommes, que ce soit des commanditaires, des mécènes ou des exécutants et d'abord des artistes. Dans le domaine des rapports de l'art et de la société, pour parler brièvement, j'ai été particulièrement frappé, Georges Duby, de deux phénomènes sur lesquels vous avez mis l'accent. Le premier, c'est le caractère aristocratique de la grande majorité des chefs-d'œuvre de l'art médiéval. Et le second, c'est le poids des aspects du pouvoir dans cet art, qu'il s'agisse du fait que les principaux détenteurs du pouvoir ont pesé sur la création artistique ou que, corrélativement, les œuvres d'art, en tout cas les principales, étaient elles-mêmes à la fois l'expression et peut-être, si je ne trahis pas votre pensée, des instruments de pouvoir.
Si vous voulez, je prends le second point que vous venez de nous proposer, c'est-à-dire le pouvoir et l'art. Et je prends un exemple très concret. C'est celui du développement de la sculpture monumentale sur la façade des églises dans le XIIe et le XIIIe siècle. C'est-à-dire précisément une projection visuelle destinée au plus grand nombre. L'église est un carrefour, elle s'offre aux foules et par sa structure même, elle veut enseigner des choses, mais cet enseignement-là est vraiment difficile, n'est-ce pas ? Il suppose justement une initiation à une symbolique, mais par des images, n'est-ce pas ? Elle, beaucoup plus accessible, beaucoup mieux déchiffrable, elle proclame, et elle proclame la vérité. Et je considère, par exemple, que l'ensemble sculpté qui se dresse sur la façade de l'abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard a été effectivement un manifeste de l'orthodoxie dans ce lieu où précisément fourmillait encore la contestation hérétique, une proclamation de l'orthodoxie de la vérité catholique en face de ceux qui la contestaient.
J'ai été très frappé, comme le seront vraisemblablement la plupart de votre lecteur, de l'affirmation, je force peut-être un peu, mais vous l'avez pratiquement dit, que s'il y a essentiellement un art aristocratique lié à ceux qui l'ont commandé, qu'ils soient d'église ou qu'ils soient des grands laïcs, si on peut dire, dans le sens que vient de préciser Pierre Toubert, qu'il y a un art populaire étant donné son public, qui était pratiquement tout le monde, au fond, entre les deux, si je peux dire, il n'y a pas eu d'art bourgeois au Moyen-Âge.
Non, j'ai réagi peut-être d'une manière peut-être un peu trop brutale, n'est-ce pas, contre une idée qui se trouvait précisément dans les livres qui parlaient de l'histoire de l'art et qui interprétaient un certain nombre de phénomènes de vulgarisation, disons, de laïcisation qui s'opère à l'intérieur du grand art médiéval comme correspondant justement à une influence de ce milieu social en pleine expansion qui était la bourgeoisie. J'ai réagi et j'ai surtout essayé de manifester que si des gens que nous pouvons qualifier socialement comme des bourgeois se trouvaient en mesure matérielle de commanditer des œuvres considérables. Et ils étaient eux-mêmes fascinés par des modèles qui étaient des modèles aristocratiques. Et ça me paraît aussi vrai d'ailleurs pour la production littéraire que pour la production artistique dans l'époque dont je parle, c'est-à-dire jusqu'au seuil du XVe siècle. Et ils ont non seulement repris ces formes qui avaient été créées incontestablement par les plus grands princes, mais ils n'ont pas réussi à ce moment-là, n'est-ce pas, à exprimer autre chose que ce que les sommets de la société avaient pu vouloir dire.
Qu'en pensez-vous, Carol Heitz?
Je suis resté frappé par les multiples références à l'architecture qui proclame le pouvoir. Et vous donnez l'exemple d'Aix-la-Chapelle, qui par excellence est un symbole du pouvoir, mais du pouvoir sacerdotal, dirais-je, du pouvoir impérial à travers le Christ, comme vous pouvez lire sur la couronne impériale « Per me reges regnant ». Et cette vision d'Aix-la-Chapelle, aussi des antéglises consacrées au Sauveur, va de pair avec ce que vous dites du Saint-Sépulcre. Et les très fréquentes références au Saint-Sépulcre, je les trouve éminemment justifiées dans cette perspective.
Oui, vous avez ici indiqué aussi un très grand problème, qui est le problème vu à travers l'art, des rapports entre le grand pouvoir sacerdotal et le grand pouvoir laïque, et le rappel fait constamment par l'Église qui tient le pouvoir au fait que les grands laïcs tiennent le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire par son intermédiaire, et quand l'inscription d'Aix-la-Chapelle rappelle que par moi les rois règnent, c'est évidemment ce point important qui est souligné. Louis Grodecki.
Des grandes études qui ont été faites récemment par Mutrich, par Schramm, montrent surabondamment, n'est-ce pas, qu'en fait, il n'y aurait pas eu un certain art impérial s'il n'y avait pas eu d'ambition impériale, et d'ambition carolingienne presque impériale, ou constantinienne même, impériale, dans l'Empire des Ottoniens, des Saliens, et même plus tard, jusqu'à Frédéric II. Mais il y a un autre problème qui a été évoqué par Georges Duby, c'est lui justement de la bourgeoisie, c'est lui du rôle des bourgeois. Il y a eu un temps, en effet, où les historiens même, pas seulement des historiens de l'art, parlait d'un Bürgerzeit, d'un temps de la bourgeoisie correspondant à une montée du réalisme artistique, et ceci, surtout au XVe siècle, bien sûr. Mais tout de même, le problème est complexe. La bourgeoisie, en tant que classe, existe depuis très longtemps. Les villes existent et ont un pouvoir, quelquefois, assez grand dans la création des œuvres d'art. Et ça depuis une époque fort ancienne, depuis le XIe siècle, je pense à la cathédrale de Pise, qui s'élève par un effort de la ville, de la bourgeoisie de la ville déjà.
Je viens de Pise et je viens de lire un livre merveilleux, d'ailleurs, sur la cathédrale de Pise, qui m'a révélé l'importance de ce monument, qui est vraiment fondamental, qu'il est à la croisée, vraiment, d'une conception de ce que doit être l'Église dans sa monumentalité. Les hommes qui, dans Pise, ont conçu ce programme, l'archevêque d'Agnbertus oui. et ceux qui l'entouraient, je ne pense pas que qu'on puisse les qualifier de bourgeois, au sens que ce mot prend dans notre esprit, oui. n'est-ce non, pas oui, bien sûr. Ce sont, évidemment, ils sont dans une ville, oui, oui. mais ce sont avant tout des gens qui se considèrent comme des chevaliers, des soldats du Christ, qui viennent, au fond, la création de la cathédrale du Dôme de Pise, c'est en fait la consécration de tout, d'une part considérable du butin pris dans la guerre sainte, oui, oui. n'est-ce pas oui. Et c'est une œuvre de guerrier.
Pourtant, il faudrait peut-être faire un peu exception pour certaines cités italiennes du XIVe siècle. Et pour certaines cités hanséatiques ou, disons, impériales de l'Empire de la Germanie, où le rôle de la classe moyenne de la ville a été tout de même assez considérable, que les modèles venaient toujours d'en haut, que les modèles artistiques n'étaient pas sécrétés par cette société bourgeoise, mais venaient d'ailleurs, c'est évident. Mais en tout cas, ils jouaient économiquement, c'est le temps de l'économie, de la direction des choses, et quelquefois même du rythme des travaux, un rôle considérable.
Messieurs, vous venez d'évoquer à plusieurs reprises le rôle de l'économie, les problèmes économiques, et ici encore, il y a, si je peux dire, dans les œuvres de Georges Duby, et surtout dans le temps du cathédral, un double paradoxe. Un paradoxe dont l'un tient à lui-même, et un paradoxe qui est un paradoxe de l'histoire dont nous parlons en ce moment. Le paradoxe de Georges Duby dans ce livre, c'est que, historien de l'économie aussi, comme il l'a lui-même rappelé, la part de l'économie dans l'art médiéval n'apparaît pas tellement, en tout cas dans cet ouvrage. Mais l'autre paradoxe, en tout cas paradoxe aux yeux des hommes du XXe siècle, c'est que on aimerait savoir quel a été le coût des réalisations impressionnantes de cet art. On a l'impression, vous le dites, Georges Duby, que les milieux dirigeants investissent dans l'art une part énorme de leur fortune, et ceci suppose donc des mentalités très différentes de celles d'aujourd'hui.
Il faut considérer que les aristocraties médiévales ont consacré, au sens propre du terme, une part énorme de leurs ressources à l'édification de ce que nous appelons des œuvres d'art. Pourquoi ? Eh bien parce que cela représentait à leurs yeux le meilleur investissement possible. Il faut se rendre compte, bien sûr, que pour ces hommes, la vie tout entière et le bonheur et la survie même dépendaient essentiellement de l'action de forces invisibles à qui ces œuvres d'art étaient dédiées. Tout le grand art est un art sacré. Tout le grand art est un art d'offrande à la divinité et en même temps de captation de la bienveillance de la divinité.
Il y a, dès le XIe siècle en particulier, un monument, il faut bien le dire, exceptionnel, mais à propos duquel on se pose la question de savoir ce qu'il a coûté, comment il a pu être, comme nous dirions aujourd'hui, financé. C'est Cluny. Mais bien sûr, je pense à Cluny III.
Nous avons pris l'habitude de l'appeler Cluny III, puisqu'il y a eu un Cluny II aux alentours de l'an 1000 et qui s'est révélé beaucoup trop petit à la fin du XIe siècle. Et pendant son très long abbatiat, Hugues, je pense, qui a pris les rênes de cette abbaye en 1049 pour les garder jusqu'en 1109, pense au milieu de ce règne à renouveler le cadre de l'abbaye. Il y était obligé, étant donné que le nombre des moines, qui était de 100 environ au temps d'Odilon vers l'an 1000, avait grimpé à 250 et à 400 à la fin du XIe siècle. D'où cette extraordinaire construction qui mesure, si je me souviens bien, 187 mètres de long et a 15 absidioles qui permettaient la lecture d'innombrables messes auxquelles s'astreignaient, avec joie d'ailleurs, avec une joie liturgique réelle, les moines. Et puis on peut se poser la question du coût. Car ce qui m'a frappé dans l'un de vos livres, « Guerriers et paysans », je pense, qui traite de l'économie européenne entre le 7e et le 12e siècle, c'est une remarque, la voici, vers 1180, en Europe, le temps des hommes d'affaires commence. Eh bien, 100 ans auparavant, vers 1080, au moment où Hugues pense à lancer sa construction, il lui suffit d'avoir 400 livres, le sens doublé d'ailleurs, que lui envoie le roi de Castille, Alphonse, pour démarrer cette construction. J'opposerai volontiers ce chiffre de 400 livres à celui, au coût de la Sainte-Chapelle de Paris, qui, à peine un siècle et demi plus tard, la Sainte-Chapelle a été terminée, me semble-t-il, en 1248, a coûté 40 000 livres. D'où alors cet écart ? Est-ce les hommes d'affaires qui ont imprimé une accélération à cette économie qui s'est révélée inflationniste ?
Il est évident que Cluny fin 11e siècle, l'économie est une économie purement agraire. Cluny possède un très vaste domaine, mais qui n'est pas tellement plus vaste que celui d'autres monastères. Et voici que, brusquement, l'abbaye mère reçoit d'Espagne, d'un pays où circule l'or, ces 400 pièces d'or qui constituent un trésor énorme dans ce monde qui n'a l'usage que de toutes petites piécettes de mauvais argent. Et les 400 pièces d'or, je me demande, n'est-ce pas, si elles ne valent pas exactement ce que valent les 40 000 livres d'or au temps où Saint-Louis construit la Sainte-Chapelle.
Louis Grodecky.
Prenons Saint-Denis, où on a pu calculer que le coût total des constructions de l'abbaye Fougère était de un peu moins de 8 000 livres, entre 35 et 44. Or, un siècle plus tard, on se met à rebâtir la nef de Saint-Denis, et nous savons parfaitement bien que ça coûte 80 000 livres, 10 fois plus. Il y a eu une dévaluation de la livre, mais qui n'est pas très importante entre le XIIe et le XIIIe siècle. Je crois qu'il faut expliquer cela avec Lopez, l'Américain, avec Jean Bonny, d'une part par le renchérissement de la main-d'œuvre extraordinaire, de plus en plus spécialisée, de plus en plus exigeante.
Et de plus en plus une main-d'œuvre salariée.
Salariée, oui. Et qui, par conséquent, justifie un tout petit peu cette modification. On n'empêche que des sommes dépensées pour la Sainte-Chapelle, et en même temps pour Saint-Denis, et en même temps pour d'autres constructions comme Reims, nous paraissent aujourd'hui, vu le budget royal de cette époque-là, par exemple, le budget de la France, quelque chose d'énorme.
Comme le disait Georges Duby tout à l'heure, on ne peut l'expliquer que par le fait que pour les hommes de ce temps, ces investissements qui nous apparaîtraient à fond perdus aujourd'hui étaient en fait pour eux les investissements les plus importants et les plus rentables parce qu'au bout il y avait le salut. Pierre Toubert.
Et lorsqu'on parle d'investissement, il faut peut-être aussi ne pas oublier le second versant de la réalité, c'est-à-dire le rapport de cet investissement. C'est un peu, finalement, par une sorte de postulat que nous sommes tous en train d'admettre que cette œuvre d'art, que cet investissement est un investissement à fond perdu. Parce qu'il me semble, et lorsqu'on étudie par exemple la politique des abbés, de grandes abbayes italiennes qui ont visé à recouvrir de fresques les moindres petites chapelles rurales qui dépendaient de leur abbaye, eh bien là, nous retrouvons le problème du pouvoir, mais nous retrouvons aussi le problème de la nécessité de survivre par le rayonnement. Il s'agit toujours d'attirer la population rurale dans la fréquentation de ces églises et au fond, tout de même, d'une certaine manière, de tirer des revenus des gens que l'on continue de garder dans ce cadre. Et ce n'est pas absolument sans rentabilité, souvent, cet investissement dans l'œuvre d'art. Il me semble bien que dans la mesure où nous avons une économie rurale traditionnelle et où c'est pour des paysans, finalement, que l'on fait toutes ces dépenses, eh bien, c'était assez judicieux d'investir dans l'œuvre d'art, ainsi conçue, dans certains aspects de la création.
Il y a un environnement qui a une importance, une influence considérable. C'est l'environnement proprement intellectuel. On pense en particulier au rapport que l'on a pu déceler, notamment Panofsky, entre l'art et la scolastique. Mais comme nous ne pouvons que prendre quelques exemples restreints et précis dans notre débat, je pense que Carol Heitz aurait des choses à nous dire sur le rôle du symbolisme et même des mathématiques dans l'architecture médiévale.
Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'emploi du symbole numérique. Il est très primaire au départ, et vous faites allusion, par exemple, à Saint-Riquier, à Santula Saint-Riquier, à Angilbert, qui fait processionner ses moines en ordre septiforme. Et puis, à travers ces deux siècles, du début du 9e au milieu du 11e, il y a une progressive intensification de ce symbole numérique. Ce qui me frappe, c'est que, par exemple, Bernward, à l'autre bout de la chaîne en quelque sorte, Bernward de Hildesheim, grand mathématicien, il recopie d'ailleurs un ouvrage de Boès, De Arithmetica, a bâti cette très belle église de Saint-Michel de Hildesheim sur un rythme de nombres tétraédriques. Les mesures ne laissent pas de doute. Nous possédons encore un ouvrage de Bernward où non seulement il note ces nombres, il les dessine. Et puis, il les investit dans sa nef. sa nef à 84 pieds. En vérité, cette triple triade de colonnes devrait l'amener à 81 pieds. Il augmente à l'aide de Dodrons cette unité à 84 pour rester fidèle à son image mathématique. À Cluny, les recherches de Conant l'ont prouvé, les deux transepts, le grand et le petit, le transept matutinal, ont été accordés à l'aide du coefficient phi. Je reste très réservé en ce qui concerne le nombre d'or, mais là, il a joué, car il est tout de même inouï de voir que le petit transept mesure 161,8 pieds, ce qui constitue le coefficient phi multiplié par 100, alors que le grand transept mesure exactement 100 pieds de plus, ce qui, excusez-moi de ce calcul, constitue 161,8 pieds plus 100 pieds, ou, ce qui est beaucoup plus fort, la multiplication de cette donnée par le coefficient phi. Eh bien, ainsi on va de mathématiques très primaires, additionnelles. 4 plus 3 font 7. Je fais processionner mes moines de manière septiforme pour être fidèle. Liturgie pérégrinante, en quelque sorte, pour être fidèle à la grâce septiforme du Saint-Esprit. De là, progressivement, on s'élève par des mathématiques géométriques et ensuite harmoniques à des données de plus en plus difficiles, si bien que vraisemblablement l'architecte de Cluny était ce mathématicien Heslon de Liège qui dominait cette science parfaitement.
Eh bien, avec Hildesheim, nous étions au début du XIe siècle, avec Cluny à la fin du XIe siècle. Je pense que ce XIe siècle va, dans un instant, nous retenir quand nous allons reprendre ces problèmes dans une perspective d'évolution, une perspective chronologique. Et je pense aussi que, dans cette partie de notre débat, nous allons pouvoir mettre en valeur, sur quelques exemples, le rôle des hommes et le rôle de certains foyers géographiques, spirituels, politiques, qui, dans tous ces problèmes, dans tous ces phénomènes, ont joué un si grand rôle. Parlons de l'art et la société au Moyen-Âge, à l'occasion de la parution des livres de Georges Duby, Le temps des cathédrales chez Gallimard et Saint-Bernard l'art cistercien, dans Art et métiers graphiques chez Flammarion, vous avez évoqué quelques grands problèmes de l'histoire de l'art et des rapports entre l'histoire de l'art et l'histoire générale. Je crois que nous pourrions maintenant, comme l'a fait Georges Duby dans Le temps des cathédrales, l'art et la société 980-1420, reprendre quelques aspects essentiels selon l'évolution chronologique depuis cette fin du Xe siècle, disons depuis les alentours de l'an 1000, où débute l'étude de Georges Duby, jusqu'au seuil de la Renaissance, ce début du XVe siècle où il achève sa réflexion et son panorama. Et, chose frappante, dans cet ouvrage, qui parle surtout de la période XIIe, XIIIe, XIVe siècle, qui est scandée par l'idée de trois grands types de monuments représentatifs, le monastère, puis la cathédrale, et enfin le palais, les premières pages, qui sont d'ailleurs assez nombreuses, celles qui parlent de l'art impérial, issu de l'art carolingien, sont peut-être parmi les plus frappantes et les plus importantes. Je crois qu'il faut partir de là, de l'art impérial et du XIe siècle. Louis Grodecky.
Oui, je me suis beaucoup occupé de l'art impérial à l'époque où j'ai écrit l'architecture ottonienne, et par conséquent, j'ai beaucoup réfléchi aux questions du rapport entre le pouvoir impérial et l'évolution architecturale du XIe siècle. Elle est très complexe. Elle est très complexe parce que des initiatives impériales personnelles sont nombreuses et variées, tantôt dans l'ordre monastique, dans l'ordre des constructions monastiques, et tantôt dans l'ordre des grandes cathédrales. Il ne faut pas oublier que le XIe siècle vit s'élever la cathédrale des Spires, fondation impériale, édifice énorme, aujourd'hui encore étonnant par son énormité, par sa grandeur, ou d'autres cathédrales comme Mayence qui n'existe plus, ou encore celle de Liège, Saint-Lambert de Liège, qui était détruite, mais nous connaissons bien. Et en France même, comme par imitation de cette volonté de grandeur, il y a Chartres tout de même, non pas Chartres que nous voyons, mais le Chartres du XIe siècle qui était aussi grande que la cathédrale actuelle, que tout de même, les cathédrales, la grandeur des cathédrales était une ambition du siècle. Nous voyons souvent le XIe siècle sous forme de petits édifices de campagne bâtis en pierre médiocre du premier art roman, de cet art populaire presque. Mais la contrepartie de cette découverte de la nouvelle architecture que le XIe siècle a connue dans les Midi, il y a cette contrepartie impériale énorme des constructions issues de l'art carolingien, ayant des ambitions presque paléo-chrétiennes dans leur forme, et qui s'imposent comme une des grandes forces constructives de tout l'Occident.
Oui, mais alors c'est peut-être là où on pourrait voir l'influence de l'évolution des structures. Ce que nous appelons la féodalité est venu précisément saper, tardivement dans l'Empire, mais très tôt dans le Royaume de France, justement le pouvoir royal, avec lui le pouvoir épiscopal, et avec lui tout ce qu'il pouvait y avoir encore de rémanent de l'art carolingien, de l'art traditionnel. Et à ce moment-là, le pouvoir créateur s'est trouvé transféré dans les monastères.
Carol Heitz, vous qui avez notamment écrit ce beau livre sur art et liturgie à l'époque carolingienne, je suppose que ce que Georges Duby a écrit sur l'art impérial et le XIe siècle ne vous a pas laissé indifférent.
Ah, pas du tout. Et surtout, je voudrais insister ici sur un lien étrange que l'on pourrait tisser d'Angilbert directement à Bernevard. Voilà deux hommes avec une destinée parfaitement parallèle. Angilbert, précepteur des enfants de Charlemagne, lettré, on l'appelle le Homère de l'Académie palatine. Angilbert, à la source de ces imagines qui sont perdues, de ces œuvres de stuc, peints et décorés de mosaïques, Bernevard, à l'origine de cette extraordinaire porte dont il a non seulement présidé la composition, mais peut-être même sculpté des détails. Eh bien, voilà deux destinées tout à fait parallèles, et ce qui me frappe le plus, l'église de Hildesheim, cette célèbre abbatiale Saint-Michel, garde une image étonnamment semblable à celle de la centula carolingienne. Cette symétrie parfaite entre les deux transepts permet même de conclure à une éventuelle visite de Bernevard à Saint-Riquier. Mais ce qui me frappe, c'est encore autre chose. Bernevard crée, à la manière romaine, more romano, ce chœur occidental qu'il veut aussi, à l'image du chœur occidental de Fulda, où repose Saint Boniface. Il sera enterré dans cette crypte monumentale, alors que son lointain prédécesseur, Angilbert, pourtant gendre du roi de Charlemagne, se fera comme Pépin, enterré dans le porticus avec la prière express que tout le monde marche sur son corps pour pénétrer dans l'abbatiale. D'ailleurs, ce corps ne restera pas longtemps dans le porticus. Déjà en 842, il sera transféré à l'intérieur de l'abbatiale dans le chœur. Je pense que nous invoquerons plus tard Guillaume de Volpiano, qui lui aussi ressemble à certains égards à ces deux hommes.
Pour parler de Guillaume de Volpiano, il faut en venir à ce que Georges Duby évoquait il y a un instant, le monastère, l'art monastique, et avec l'art monastique, entrer dans la féodalité. Comment caractériseriez-vous cet art et la place du monastère dans l'art médiéval, Georges Duby.
Le monastère qui de plus en plus devient un établissement privé, complètement dominé par un prince et qu'il s'en sert justement comme l'une des assises fondamentales de sa dynastie, le monastère remplit des rôles essentiels dans la société nouvelle. C'est-à-dire qu'il est bien sûr lieu de célébration, lieu de capture des grâces divines, mais il est aussi nécropole. C'est là que, autour d'un saint fondateur, quelquefois, viennent s'aligner les sarcophages ou les sépultures des princes. Et le monastère est aussi lieu de célébration du pouvoir, lieu atelier d'éloge où sont dressés, où sont construits les panégyriques de la famille. Le monastère est enfin un endroit où sont accueillis des membres de la famille aristocratique et des familles qui lui sont liées, et de façon à ce qu'il y ait une sorte de communication très directe entre ce groupe d'hommes qui se sont isolés du monde pour précisément être les modèles de la pureté et les intercesseurs et ceux qui restent dans le siècle.
L'art monastique, nous avons déjà parlé de Cluny, nous reparlerons des monastères cisterciens tout à l'heure, mais Carol Heitz, vous avez évoqué Guillaume de Volpiano et je crois que nos auditeurs seraient contents d'avoir quelques informations.
Sa personnalité me fascine. Voilà un homme qui vient du fin fond de la Lombardie, né près d'Ivrea. Il est, je pense, tenu sur les fonts baptismaux par Adélaïde, l'épouse d'Othon Ier. Et puis, à peine 30 ans plus tard, nous le trouvons en 991 ou 13, installé abbé de Saint-Bénigne de Dijon. Mais pendant les 40 ans de son activité monastique, il fondera de très nombreux monastères. Et cet axe que vous indiquez, et qui va de Frutuaria, je pense, dédicacé tout à fait au début du XIe siècle en Lombardie, jusqu'à Fécamp, a quelque chose de tout à fait impressionnant. Et je crois qu'on le trouve même à Saint-Arnould de Metz, vers 1030. Je crois aussi que sa haute stature morale a dû être pour quelque chose dans cette vénération qu'on lui portait. Et récemment encore, en travaillant à la Bibliothèque nationale, j'ai trouvé par hasard une lettre de la fin du XVIIe siècle envoyée par l'abbé de Sainte-Bénigne, Lanthenas, à Mabillon, qu'il a utilisée pour ses annales. Dans cette lettre, il est question de quelques extraits d'un ordo du XIe siècle concernant la position des hôtels, concernant également des aspects économiques de l'abbaye et surtout un processionnaire, une institutio de diversitate officiorum en quelque sorte, qui nous donne exactement l'emploi, l'utilisation de la rotonde Sainte-Marie. Des processions quotidiennes y mènent et des processions qui sont empreintes d'une grande ascèse. Guillaume de Volpiano était très ascète. Et je vois par exemple, en plein hiver, ces moines se rendront en procession à l'église Sainte-Marie déchaussés. Mais il y a des nuances. Les moines se déchaussent dans le dortoir, les membres de la scola seulement dans le cloître en bas, avant de pénétrer dans l'église, et les enfants vont chausser jusqu'à l'autel et n'ôtent leurs souliers qu'à proximité de l'autel.
Dans cette procession malheureusement un peu accélérée que nous faisons à travers l'art médiéval, après le temps des monastères, Georges Duby, vient le temps des cathédrales. Le temps des cathédrales, c'est d'une part le temps de la ville, pour dire bref, c'est aussi le temps de la lumière, et j'aimerais que vous nous présentiez la cathédrale dans l'art médiéval, et je pense qu'à propos de la lumière, Louis Grodecky voudra bien évoquer le vitrail et cette histoire du vitrail médiéval qui lui doit tant. Georges Duby.
L'évolution d'ensemble de la société fait ressuscite finalement à la fois la cité et le pouvoir de celui qui est le pasteur de la ville, c'est-à-dire de l'évêque. Et après cette sorte d'éclipse de l'épiscopat, voici de nouveau que la ville devient le point où s'ouvre le plus vaste chantier. Mais la cathédrale, c'est aussi l'école, et c'est ici que nous voyons l'influence que la réflexion théologique toute neuve qui s'opère dans ces ateliers de pensée exerce sur la conception du monument. Mais de tout cela, j'aimerais que Louis Grodecky nous dise quelques mots.
C'est presque maintenant un lieu commun, mais que vous développez d'une façon très subtile et très nouvelle, que l'importance de la religion et de la lumière, pourrait-on dire, au moment de la naissance de l'art gothique. C'est un thème très ancien, paléo-chrétien, c'est un thème carolingien aussi, tous les bons esprits ont spéculé sur la valeur divine de la lumière, Dieu et lumière, ainsi de suite, l'Église est la Jérusalem lumineuse par elle-même, mais cette espèce d'ambition, de rêve, se réalise tout d'un coup un jour. Se réalise au XIIIe siècle, au XIIe siècle, pardon, se réalise dans les premières cathédrales gothiques et aussi dans l'abbaye de Fugères. Vous avez donné une importance très grande à la pensée de Fugères, peut-être un peu trop grande même dans cette création. Oui. Mais en tout cas, il est vrai que c'est à Saint-Denis, c'est à Sens, c'est en Île-de-France, autour de 1130-1160, que se réalisent ces premiers grands monuments énormes, tout illuminés de lumière, passent à travers des fenêtres de plus en plus grandes et à travers des vitraux de plus en plus lumineux, de plus en plus attirant à eux-mêmes presque toute l'attention du spectateur. Il nous en reste encore un certain nombre. À Saint-Denis, je viens de publier un livre sur un premier volume sur les vitraux de Saint-Denis, en cherchant à restituer plus ou moins l'ordre primitif de ces verrières, auquel Fugères tenait tellement. Nous avons à Chartres, problème d'actualité, trois grandes verrières du XIIe siècle qui subsistent, et qui en effet qui inondaient sans aucun doute toute la cathédrale romane quand elles ont été construites. Nous avons encore Poitiers, peut-être inspiré par Gilbert de la Porée, un des théologiens de la lumière les plus importants du XIIe siècle. Nous avons encore des vestiges au Mans. Nous avons encore, plus tard, en Allemagne, à Saint-Cunibert de Cologne, une œuvre presque complète de cette même esthétique. De telle manière que nous voyons comment, au cours de ce XIIe siècle, la lumière progresse et les problèmes se posent de manière de plus en plus visible, de plus en plus impérieuse dans l'évolution de l'art gothique. Jusqu'à cette évolution du XIIIe siècle, jusqu'à la Sainte-Chapelle, où il n'y aura plus de mur du tout, où la lumière colorée aura tout mangé. On a même supposé, je ne pense que c'est une idée d'historien de l'art peut-être, mais qu'il est valable que cette volonté de lumière, cet effort d'agrandissement des baies, de lumière de plus en plus colorée aussi, a été un des principaux moteurs de toute l'architecture gothique. Un de ceux qui ont transformé, ont imposé des solutions techniques importantes, d'équilibre, de modénature, de plan même, que c'était une des forces essentielles de toute l'évolution de la cathédrale.
Nous venons d'évoquer, et nous savons que c'est important, et nous venons de le voir, le rôle de personnage, le plus souvent le rôle de grands personnages ecclésiastiques. Nous savons aussi que de grands personnages laïcs ont joué dans l'art médiéval un rôle de premier plan. Et dans ce temps des cathédrales, qui est en fait la seconde moitié du XIIe et le XIIIe siècle, je songe à un personnage dont on connaît la place très originale et très importante qu'il a tenue aussi bien dans l'histoire politique que dans l'histoire culturelle et dans l'histoire de l'art. Je pense à Frédéric II et Pierre Toubert, je crois que nul ici n'est mieux placé que vous pour l'évoquer.
Nous avons surtout parlé de l'art de l'Île-de-France et de l'art, en tout cas, de l'Europe du Nord. Frédéric II, malgré empereur, allemand d'origine, est un homme du Midi. C'est un Italien, essentiellement par sa vie, par son cadre de vie. Et c'est un homme qui, je crois, est très important dans le livre de Georges Duby lui-même, et ça m'a bien fait plaisir de voir l'importance qu'il donne à Frédéric II, c'est-à-dire, au fond, à cette région qui est un carrefour de culture, qui est l'Italie du Sud, où se rencontrent, dans la première moitié du XIIIe siècle, des influences byzantines, des influences musulmanes, et ce qu'il reste en Italie, de la romanité. Et bon, ceci c'est un premier point. D'autre part, on vient beaucoup de parler, bien longuement et très bien, de l'art de la lumière. Mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que en Italie, et surtout dans ce monde, au fond, qui paraît aux autres Européens du temps comme un monde étrange, oriental, byzantin, ils ne se sentent pas chez eux. Même à Rome, déjà, ils ont l'impression d'être dans un monde oriental, les Français ou les Allemands. Là aussi, le souci de la lumière est très grand de tout temps, seulement il est résolu techniquement d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on n'évide pas l'édifice par un approfondissement des techniques architecturales, mais au contraire, on le remplit de lumière sans vider les murs, en ayant recours à des techniques, en particulier la mosaïque, l'or qui est répandu à profusion finalement sur les murs, fait ruisseler la lumière sans que pour autant on ait besoin d'ouvrir les fenêtres, si je puis dire. Bon. Alors, c'est dans ce monde étrange pour des Européens du Nord que se situe la vie, l'action, les entreprises de Frédéric II. Frédéric II est un esprit curieux, il nous montre justement une espèce de synthèse culturelle de son temps, et c'est à ce titre qu'il a fasciné les biographes. Je crois que les plus belles biographies d'hommes du Moyen-Âge que nous ayons, c'est sur Frédéric II qu'elles se sont accrochées, et cela s'explique bien. Justement, si l'on considère cette espèce de synthèse que révèle sa vie. Sa culture est une culture géographique, une culture des sciences naturelles qui lui vient d'héritage musulman. C'est aussi la curiosité pour les sciences de la divination, pour tout ce qui est ailleurs. C'est aussi, je crois, un homme important parce que c'est avec lui vraiment qu'au niveau qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire de l'art et des formes, renaît véritablement un art romain impérial, mais un art romain au sens de la Rome antique. Et c'est en somme le symbole, à mon avis, on parlait tout à l'heure du côté des possibles répercussions jusqu'au plus bas niveau du peuple, d'une conception venue d'en haut dans l'art. Je suis très frappé, moi, par le monnayage de Frédéric II. Et c'est avec Frédéric II que recommence en Occident la frappe de monnaie d'or. Or, ces monnaies d'or de Frédéric II, que l'on appelle des augustales, c'est-à-dire des monnaies de l'Auguste, de l'empereur, ces monnaies reprennent les types et la plastique monétaire des empereurs romains. Et ces bustes laurés, tout cela véritablement nous ramène à une source importante de l'histoire de l'art médiéval, qui est la source romaine.
Et moi, je pense, si je me laissais aller, je situerais justement parmi les artistes qui ont environné Frédéric II et ceux qui ont continué sur cette voie, les initiateurs de ce que nous appelons la Renaissance. Et je pense en particulier à Pise la Ghibelline, et aux sculpteurs pisans, à Nicola Pisano et aux autres. Et à ce propos, j'aimerais qu'on dise quelques mots quand même de la condition de l'artiste médiéval. Il est évident qu'il est lui-même créateur, il exécute un programme, mais il a cette part de génie qui échappe à l'analyse historique, fait qu'il apporte du sien. Mais il reste malgré tout dans une condition extrêmement modeste. Je me souviens, lorsque j'étais professeur à l'université d'Aix-en-Provence, avoir un jour confié une recherche à une étudiante sur le chantier de la cathédrale de Pise, utilisant ces choses très humbles qui étaient les comptes des salaires de ceux qui travaillaient sur ce dôme. Or, nous nous sommes rendus compte que Giovanni Pisano apparaît parmi ces tâcherons et que son salaire n'est au fond que peut-être le double, mais pas davantage, de celui qui très humblement taille les pierres.
Nous nous sommes tournés vers l'Italie. Il y a une autre figure, et une figure qui, je crois, vous fascine, Georges Duby, c'est saint François d'Assise.
Et oui, et à propos de saint François d'Assise, nous pourrons peut-être là toucher de très près le problème des relations entre l'art et les hommes. Pourquoi ? D'abord parce que la conversion de saint François d'Assise vient peut-être d'un regard porté sur une œuvre d'art, sur l'un de ses crucifix peints qui se trouvait dans les églises. Parce que la première tâche que s'est assignée François, ce fut de reconstruire ces lieux de prière délabrés, mais par un autre biais. François lui-même, qui n'a jamais imaginé qu'il pouvait être, lui, le conducteur de la main des artistes, par sa propre personnalité, par les problèmes que sa personnalité très dérangeante posait à la hiérarchie catholique, a suscité les premiers vastes programmes de proclamation idéologique par la peinture et une sorte de rectification à l'usage du peuple de l'image que l'on pouvait se faire du Poverello.
Georges Duby, je crois qu'il faut attendre notre procession en venir à la fin du Moyen-Âge, à cette période que vous caractérisez comme étant, dans l'art, le temps du palais. Bien sûr, nous allons retrouver ici quelques caractéristiques constantes et fondamentales de l'art médiéval, et même, vous le montrez bien, c'est peut-être le moment où la culture chevaleresque, née au XIe et surtout au XIIe siècle, s'épanouit de la façon la plus luxuriante. Mais c'est aussi un temps de nouveauté, avec des hommes nouveaux, avec une conversion vers le bonheur, la joie, la possession du monde. C'est l'apparition du corps de la femme pour elle-même. C'est le moment où les artistes et les hommes semblent vraiment regarder de tous leurs yeux et pour aboutir, comme vous l'avez dit dans ce beau livre, vers au fond, deux tendances contemporaines et en apparence paradoxalement contradictoires, le sens, la fascination de la mort, mais en même temps l'attrait du monde terrestre. Alors, comment caractériseriez-vous cette dernière période de l'art médiéval ?
Eh bien, je crois que la chose la plus importante, peut-être, c'est que, d'une part, les leviers de la création artistique passent des mains des gens d'église entre les mains des princes, par tout un ensemble de glissements, en particulier ceux qui, par le renforcement des structures de l'État, par le perfectionnement de la fiscalité, procurent aux princes laïcs les moyens financiers suffisant pour entreprendre à leur tour les grands ensembles de construction. Mais également parce que, au niveau même de la vie chrétienne, je pense que c'est à ce moment-là que, et notamment par l'effet de la prédication franciscaine, le christianisme devient une religion populaire. Donc, voyez-vous, il y a d'une part une sorte de décléricalisation de la création artistique. Et dans la mesure où cet art reste, pour sa plus grande part, un art sacré, c'est une autre conception de la relation entre l'homme et Dieu qui s'introduit. Vulgarisation, certainement, puisque c'est le plus grand nombre maintenant qui participe et que les intellectuels, finalement, s'effacent. Vulgarisation est, dans les formes de la piété, quelque chose qui, précisément, devient une interrogation de plus en plus anxieuse sur la destinée de l'âme et du corps après la mort. Et donc, le tombeau devient peut-être l'œuvre d'art essentielle, mais en même temps, une sorte de rupture de toutes les contraintes, de tous les interdits qui empêchaient de consacrer une partie des moyens de création artistique à la représentation de la vie laïque, à la représentation des joies de vivre. Et cette culture chevaleresque, qui jusqu'à présent s'était exprimée essentiellement par le poème, par la musique ou par la parure, par ces œuvres d'art qui étaient les vêtements de cour, mais fragiles en matériaux qui étaient périssables, eh bien cette culture-là trouve à s'exprimer est dans la peinture, dans la sculpture, dans la disposition même de l'espace intérieur du palais.
Pierre Thoubert, ce temps du palais est aussi le temps d'une création artistique toujours foisonnante dans tout l'Occident chrétien. Mais malgré tout, il semble qu'il y a maintenant une terre élue de la création artistique et de ses nouveautés, qui est l'Italie.
Dans la mesure où il ne faut pas l'oublier, le livre de Georges Duby s'arrête explicitement en 1420. Il a parfaitement raison lorsqu'il définit cet art comme encore un art palatin, c'est-à-dire un art de grand. Et il a bien analysé les phénomènes de vulgarisation de cet art, qui est également perceptible au niveau de la littérature. Alors je crois que c'est une époque où, tout de même, il faut bien voir que nos sources, c'est-à-dire nos modes d'approche, nos manières de toucher la réalité, sont tellement nombreuses, multiformes, variées, que véritablement, dès que nous sortons, nous essayons de sortir une idée générale, nous nous trouvons de plus en plus gênés. Mais il est d'autre part bien certain que cet art, même en plein à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, reste encore, d'une certaine manière, très marqué par les idéaux de l'époque féodale. Pensons à quelqu'un comme Boccace, par exemple. La plupart des nouvelles de Boccace se passent au XIe, au XIIe siècle, et Boccace est ravi lorsqu'il nous raconte non pas tellement les mésaventures de ménage d'un marchand florentin du XIVe siècle que les aventures des princes de Lusignan, etc. D'autre part, je pense au même à cette littérature intime des livres de raison que les marchands italiens, les marchands florentins du XIVe siècle tenaient pour leur propre édification, pour celle de leur famille. Je pense au livre de raison d'un marchand qui s'appelait Paul de Certaldo, d'un petit bourg près de Florence, et qui est passionnant parce qu'à un certain moment, il nous dit « Je vais maintenant vous donner », mais quand il dit « vous », c'est à ses enfants, c'est pas une littérature qui s'adresse à un grand public, c'est une littérature intime et familiale. « Je vais vous indiquer quelles sont les grandes joies de la vie, les 12 plus grandes joies de la vie, ou les je ne sais pas combien. » Eh bien, la première de toutes ces joies de la vie, c'est pas ni d'être riche, ni d'avoir une jolie femme, ou je ne sais quoi. La plus grande de toutes les joies de la vie, esser cavaliere, être chevalier. Et voilà quelqu'un qui est un pauvre petit marchand qui vend des épices dans sa boutique, mais l'idéal de la vie est encore celui du XIe, XIIe siècle. Bon. Alors, et Georges Duby insiste bien aussi sur le fait que dans ce palais, il y a une espèce de sanctuaire qui est la chapelle, où vient comme se cristalliser tout ce qu'il y a d'intime à la fois et d'ancien dans les formes du culte. Je pense que peut-être que dans la seconde moitié du XVe siècle, les choses changent et qu'à ce moment-là, cet art perd peut-être ce caractère palatin qu'il avait jusque-là.
Au XIVe siècle, il me semble qu'on assiste dans l'art comme dans la pensée. C'est provoqué peut-être par le Poverello en partie, à une espèce de personnalisation, d'introversion qui nous amène parfois à voir certaines frontières abolies. Je pense par exemple entre la frontière et la vie et la mort. Ce qui m'a toujours étonné, c'est ce passage tout à fait fluide d'une humanité qui se présente d'ailleurs de manière gracieuse. Je pense à ces madones déhanchées au style mou, doux, le weicher style, vers les danses macabres, n'est-ce pas? Et à cet égard, je vois en parallèle au XIXe siècle la littérature de Hofmannsthal, par exemple. L'art nouveau nous présente exactement la même situation, un glissement riant, dansant, fluide, d'un état à l'autre, qui était inconcevable dans la sculpture romane, par exemple du Poitou, je pense à Aulnay, où le contraste, l'opposition est très dure entre les vertus d'un côté et les vices de l'autre.
Georges Duby, votre livre « Le temps des cathédrales » s'achève sur l'évocation de deux grands artistes du début du XVe siècle, le flamand Van Eyck, le florentin Masaccio. Pourquoi ?
Eh bien d'abord parce que ce sont deux peintres et que la peinture s'affirme comme étant l'art majeur et pour longtemps. Ensuite parce que ce sont deux artistes qui ont eu si pleinement conscience de leur autonomie, d'être sortis de cette domesticité qui avait été depuis toujours la condition du créateur qu'ils ont osé se représenter eux-mêmes, ou représenter tout simplement leur femme, non pas sous l'aspect de la Vierge, mais telle qu'elle était. Et puis aussi parce que c'est à ce moment-là que l'espace médiéval éclate et qu'il y a maintenant deux foyers qui, précisément, vont illuminer des zones d'une lumière tout à fait différente, les Pays-Bas et l'Italie.
Georges Duby, presque en même temps que Le Temps des cathédrales, texte ancien mais repris, vous avez publié un ouvrage nouveau, récent dans son écriture, Saint Bernard, l'art cistercien, aux éditions Arts et Métiers Graphiques, chez Flammarion. Et je me permets de dire ici que si, dans Le Temps des cathédrales, par rapport au volume de Skira dont ils viennent, c'est surtout le texte qui compte. Dans Saint-Bernard, l'art cistercien, c'est un ouvrage où l'équilibre me paraît parfait entre le texte, la présentation, l'illustration qui est somptueuse. Et permettez-moi de dire que, bien qu'on ne fasse pas de publicité à la radio, et ce n'est pas de la publicité, quel beau livre d'étrennes. En écrivant Saint-Bernard et l'art cistercien, vous avez notamment retrouvé non seulement une, mais deux grandes figures. Et ce n'est pas un hasard si, en exergue de l'ouvrage, vous avez mis une citation de l'abbé Sugère de l'homme de Saint-Denis. Et en simplifiant bien entendu les choses, on pourrait peut-être dire que la première moitié du XIIe siècle, dans le domaine de l'art comme dans d'autres domaines, est dominé par deux géants, Sugère et Saint-Bernard. Et leur attitude vis-à-vis de l'art, comme vis-à-vis d'autres problèmes, n'est pas la même. Louis Grodecky, comment les situez-vous ?
J'ai une opinion assez différente de celle de Georges Duby sur Sugère. Je dois l'avouer. Je suis, depuis 25 ans, en prise avec les problèmes de Sugère, de l'abbaye de Saint-Denis. J'ai beaucoup discuté de ces questions avec Panofsky, qui a écrit un très beau livre et qui a très bien présenté Sugère. Sugère nous apparaît aujourd'hui comme un génie, et il l'était sans aucun doute, par son sens de la réussite artistique, politique, quelquefois même par le bonheur de ses petits vers. On croit qu'il a réussi, ils sont mauvais. Bon. Mais ce n'est pas un penseur. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui forme la pensée du siècle. Il contribue, et d'une façon très efficace, à la formation de ce qui est visuel, de ce qui est artistique, mais par lui-même. C'est un homme qui n'est jamais préoccupé d'une question théologique proprement dite. Ses idées théologiques, ses emprunts à Denis Lepagite, sont d'une banalité extraordinaire. Presque toutes les créations iconographiques de Sugère, contrairement à ce qu'a affirmé Mal, et ce que pense encore M. de Lubac, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce sont des versets empruntés à des vrais penseurs chrétiens, comme Rupert de Deutz, Robert de Saint-Laurent de Liège, qui lui est un théologien réel, traditionnaliste, et qui inspire toute cette pensée. C'est du Honorius Didotin, qui lui aussi lui donne toutes ses idées. Et Panofsky a bien eu raison de dire, Sugère est un homme assez peu intellectuel. C'est un homme d'action, un administrateur prodigieux, un homme de goût, sans aucun doute aussi, un homme qui s'intéresse à l'art, et qui trouve, avec son propre génie de réalisateur, les voies pour transmettre dans la pierre, dans les vitrailles, dans l'orfèvrerie, des idées qui ne sont pas de lui. Donc je crois, il ne faut pas poser Saint-Bernard, qui lui, non plus pas un grand théologien, disons-le, à côté des gens comme Rupert de Deutz, comme Abélard, comme les Victorins, comme Gilbert de la Porée, ce ne sont pas des hommes qui dominent la pensée du siècle. Il domine peut-être la création artistique, et ça, vous avez parfaitement raison, de les opposer et de commencer votre livre par cet éclat, l'éclat de l'art bénédictin que suggère, alors, réalise les mieux, n'est-ce pas, bien mieux que les Tunisiens au même moment. C'est tout à fait vrai sur le plan des créations artistiques. Je ne pense pas que ce soit vrai sur le plan des personnalités. Ce sont deux personnalités d'action, essentiellement.
Oui, mais là, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais l'un et l'autre, si vous voulez, ont réussi, par un certain côté de leur personnalité, à incarner ce qui était une pensée qu'ils partageaient, à laquelle ils n'avaient pas contribué peut-être très directement par leur propre réflexion, mais à l'incarner dans des objets visibles, l'un et l'autre. Le premier suggère, étant lui dans la ligne des grands abbés clunisiens, c'est-à-dire considérant que le monastère était avant tout un instrument de louange et que cette louange préfigure de la Jérusalem céleste devait éclater de toutes les splendeurs, suggère, introduisant d'ailleurs la pensée dionysienne, la pensée de Denis l'Areopagite, de celui que l'on vénérait dans le monastère dont il était l'abbé, qu'il connaissait peut-être d'une manière superficielle, mais qu'il a fait connaître, et enfin en tout cas, qui a été à partir de lui, si vous voulez, l'inspirateur d'une certaine conception, et notamment de ce qui débouche sur l'art gothique. L'autre, au contraire, Saint Bernard, est en lui le promoteur d'une vision d'un monachisme de renoncement total, d'austérité absolue, d'isolement, de fuite au désert et de retour au travail manuel. Saint Bernard est un homme très complexe. Certains des aspects de sa personnalité, je l'avoue, me repoussent. Mais lorsque je lis la suite des sermons sur le Cantique des Cantiques, je suis absolument ébloui. Et je pense que l'art cistercien peut être justement un des lieux privilégiés pour poser ce problème, qui est le problème majeur que j'évoquais au début de cette émission, qui est celui des rapports entre l'œuvre d'art et ce qui l'environne. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a dans la pensée de Bernard une idée fondamentale qui est le sentiment de ce que je dirais l'incarnation. L'homme est à la fois une âme et un corps. Le monastère est un lieu d'où l'on, une sorte de tremplin d'où l'on peut bondir vers l'invisible, mais il s'enracine dans la matière.
Voulez-vous me permettre d'évoquer malgré tout ce qui m'apparaît presque comme un paradoxe dans le rôle de Saint Bernard dans la création artistique? C'est la façon dont il a si violemment attaqué ce qui nous apparaît, sinon comme l'essence, du moins comme des aspects essentiels de l'art roman. C'est sa célèbre diatribe contre la sculpture romane, et je crois que nos auditeurs aimeraient peut-être entendre un extrait de ce texte pour nous classique.
Je passe sur la hauteur immense des églises, sur leur longueur démesurée, sur leur largeur extravagante, sur les sculptures somptueuses, sur les peintures séduisantes, qui, en attirant sur elles les regards de ceux qui prient, empêchent du même coup le recueillement. J'admets que tout cela est pour honorer Dieu. Et certes, la fonction des évêques et celle des moines est différente. Nous savons que ceux-là doivent exciter par des attraits matériels, puisqu'ils ne le peuvent par des attraits spirituels, la piété d'un peuple matérialiste. Mais nous qui avons quitté le peuple, qui avons laissé pour le Christ toutes les choses précieuses et matérielles, de qui cherchons-nous avec cela à exciter la piété? Les yeux se repaissent de reliques couvertes d'or et l'on ouvre les châsses. On montre la beauté d'un saint ou d'une sainte et on les croit d'autant plus saints qu'ils sont plus colorés. Les hommes courent embrasser, et on les invite à donner. Et ils admirent plus la beauté des choses qu'ils n'en vénèrent la sainteté. On suspend dans l'église non des couronnes, mais de véritables roues ornées de pierres précieuses, munies de lampes, mais brillant surtout des pierres qui y sont incrustées. En guise de candélabre, nous voyons se dresser des arbres. Chef-d'œuvre artistique d'un poids lourd de bronze étincelant, non seulement de pierres précieuses, mais de lampes qui les couronnent. Ô vanité des vanités, ou plutôt folie et non vanité. Les murs des églises resplendissent, et les pauvres n'ont rien. Elle habille ses pierres d'or et laisse ses fils nus. Les dépenses des indigents sont employées à réjouir les yeux des riches. Dans les cloîtres, que signifie, en présence de moines en train de lire ces monstres ridicules, cette étrange beauté laide ou cette belle laideur? Et ces singes dégoûtants, et ces lions féroces, et ces centaures monstrueux, et ces moitiés d'hommes, et ces tigres tachetés, et ces soldats en train de se battre, et ces chasseurs jouant de la trompette? On peut voir une tête à corps multiple, ou au contraire un corps à tête multiple. Ici, on aperçoit un quadrupède à queue de serpent, et là un poisson à tête de quadrupède. Ici, une bête et cheval par devant, chèvre par derrière. Là, un animal à cornes se termine en cheval. L'étrange variété des formes est telle qu'on préfère lire sur les marbres que dans les livres, et que la journée se passe à admirer ces horreurs une à une au lieu de méditer la loi divine. Mon Dieu, si l'on n'a pas honte de ces stupidités, ne pourrait-on l'avoir de ces dépenses ?
Mais il est certain que vous avez posé le problème fondamental, et si j'ai bien compris votre dessein, d'une part, vous êtes depuis longtemps fasciné par Saint Bernard, par l'art cistercien, le provençal que vous êtes toujours, continue à vivre dans les belles abbayes cisterciennes de Provence, et en particulier dans le cher Sénanque, et je crois que, par ailleurs, vous avez voulu éprouver en quelque sorte sur un échantillon particulièrement important et intéressant, l'art cistercien, ce que vous pensez des rapports entre l'art et la société. Louis Grodecky.
En réfléchissant beaucoup sur l'œuvre de Sugère, comme aussi sur celle de Saint-Bernard, dans le domaine artistique, je constate de chaque côté un échec, un grand échec. La diatribe contre l'art roman ou contre les faces de l'église de Saint-Bernard se place en 24, je crois, en 1124. Or, Sugère, quelques années après, n'en tenant absolument pas compte, entreprend au contraire l'œuvre la plus fastueuse qui existe. Et d'autres, comme Vibald de Stavelot, en fait de même. On ne tient pas compte du tout, comme si la propagande de ce texte était mal faite, comme je ne l'avais pas connu. Les grands fastes de leur roman, au fond, Vézelay, Autain, tout ça, c'est, ça continue après la diatribe, après la protestation. Et ici, quelque chose tout de même historiquement qui est curieux, c'est qu'il agit à contre-courant.
La même chose dans le domaine intellectuel pour Saint-Bernard. Il vient à Paris prêcher aux maîtres et aux étudiants de ces écoles urbaines, de cette université naissante, pour leur dire que la vraie école, l'école du Christ, c'est l'école du cloître. Et nous savons très bien que la floraison universitaire, chronologiquement, s'ensuit.
Même sujet, même chose, même échec, peut-on dire, peut-être un peu différent, dans l'ordre des créations architecturales. Il a donné un prototype prodigieux qui a entraîné toute l'évolution. Mais dans l'ordre iconographique, c'est bien à quoi il tenait tant que ça. Il a échoué totalement. On peut prouver qu'une génération après sujet, personne ne comprenait plus les compositions extrêmement savantes qu'il a exposées dans son église, que c'était périmé déjà, et que l'art du XIIIe siècle allait suivre en iconographie, une voix tout à fait différente.
Mais je suis frappé tout de même de voir la facilité avec laquelle on constate les échecs. J'aimerais bien quand même rappeler certaines réussites, c'est-à-dire qu'il me semble qu'avec Saint-Bernard, ce n'est pas pour rien si cet ouvrage s'appelle « L'art cistercien ». Il me semble, en tant qu'historien, fondamental de rappeler que c'est la première fois quand même dans l'histoire médiévale qu'une certaine conception du monachisme bénédictin traditionnel porte à sa logique et sa dynamique et sa force à la création d'un nombre considérable d'abbayes. Alors là, je ne vois pas où est l'échec, d'un nombre considérable d'abbayes qui correspondent par leur schéma d'organisation de l'espace monastique, qui porte en elle une conception même du monachisme qui est extrêmement précise. On peut parler, à mon avis, d'une manière presque impropre, de l'art clunisien. Il n'y a pas d'art clunisien, il y a l'art de Cluny. Et cet immense organisme qui est l'ordre clunisien n'a jamais eu un art uniforme répandu dans toutes les lignes de diffusion de l'interprétation clunisienne du monachisme, comme on le retrouve avec Cîteaux. Moi, ce qui me frappe dans l'art cistercien, c'est finalement, au fond, ce qui en reste, ce qui en fait le succès, c'est-à-dire l'adéquation qui existe entre une certaine conception du monachisme bénédictin et une certaine vision que, pour faire bref, on dira fonctionnaliste de l'architecture monastique. Ce qui fait que chaque fois qu'on visite un monastère cistercien, que ce soit à Sénanc, au Toronnet, en Bourgogne ou en Hongrie, eh bien finalement on retrouve le même agencement d'ensemble de l'espace. Et c'est là au fond qu'est le succès de Saint-Bernard.
Sans faire de philosophie trop facile de l'histoire, je crois qu'on peut dire que les grands hommes sont grands à la fois dans leurs réussites et dans leurs échecs. Et peut-être que pas de grand homme qui n'ait été partiellement l'auteur d'un échec, si je peux dire. Carol Heitz.
Le mouvement cistercien prolonge l'organisation monastique carolingienne après Hinden, après le concile d'Aix-la-Chapelle 816-817. Quand on compare, et vous faites une large part d'ailleurs au début dans votre livre, si bien que l'art cistercien, l'organisation cistercienne apparaît vraiment comme un summum de l'organisation bénédictine primaire, eh bien, quand on compare le plan de Saint-Gall, par exemple, à celui de Fontenay, il y a une identité parfaite. Même Cluny n'aura pas réalisé le plan de Saint-Gall avec autant de netteté et de perfection que Fontenay, par exemple.
Vous pourriez un peu décrire Fontenay pour nos auditeurs ?
Eh bien, une grande abbatiale longue de 65 mètres, exactement ce que prescrit le plan de Saint-Gall, car si l'église, le plan, mesure 300 pieds, c'est-à-dire 100 mètres de long, le concile d'Hinden et Benoît d'Agnan ont imposé une réduction d'un tiers à 65 mètres, donc voici un monument pas trop monumental, praticable. Au sud de ce monument, un cloître plus spacieux peut-être que celui de Saint-Gall, s'expliquant peut-être par un effectif accru au XIIe siècle par rapport au IXe. Mais le dortoir, le réfectoire, le cellier sont logés exactement d'une même manière. Nous retrouvons les forges au-delà du réfectoire, toute cette série d'ateliers, exactement comme sur le plan de Saint-Gall, même le côté hygiénique, le drainage des eaux, répond à ce qui est indiqué dans ce plan exemplaire.
Georges Duby, ce n'est pas parce que j'ai une obsession de l'économique, mais je ne puis m'empêcher de penser, et vous donnez d'ailleurs à ces aspects une large place dans votre livre, que avec, sinon Saint-Bernard, du moins avec Cîteaux, c'est un autre type d'économie qui s'affirme dans l'Occident du XIIe siècle. Y a-t-il des rapports évidents entre cette nouvelle économie et l'art cistercien ?
Très directement, parce que d'une part, retour aux sources, les cisterciens ont voulu respecter la lettre de la règle de Saint-Benoît et ils se sont interdits par conséquent d'être des exploiteurs, d'être des seigneurs. Ils ont voulu, bien sûr, posséder une terre, mais en tirer eux-mêmes les fruits. Ils s'installaient dans les espaces solitaires et ils produisaient de quoi vivre, bien sûr, de quoi se nourrir d'une manière très austère. Mais ils exploitaient aussi la friche, la forêt, les pâturages et ils se sont mis à produire dans des conditions extrêmement profitables quantité de matériaux qu'ils ne consommaient pas, la laine, la viande, le fer, et qui étaient demandés de plus en plus par cette société dont le niveau de vie s'accroissait, par ces villes qui se construisaient, par ces artisanats qui étaient de plus en plus actifs. Et tous ses produits, il les vendait. Il recueillait ainsi de l'argent, des pièces d'argent. Qu'en allait-il faire ? Il pratiquait peu l'hospitalité puisqu'ils étaient isolés. Et ils ont employé justement cette richesse débordante à réaliser justement ce qui devait être la représentation visuelle de la morale qu'ils avaient choisie. Ils sont devenus riches malgré eux, tout en vivant comme des pauvres, et toute cette richesse, ils l'ont consacrée. Ils sont devenus si riches d'ailleurs que les temps passant, d'autres formes de spiritualité et de piété s'introduisant dans la société laïque, ils ont perdu progressivement de ce qui avait fait leur succès. Et du même coup, ils se sont un peu laissés aller à justement revenir à ces formes de délectation esthétique que Saint Bernard avait proscrit. Et l'on voit peu à peu l'ornement reparaître sur ces murs nus dont Saint Bernard avait rêvé. Et l'on voit progressivement, justement, comme le disaient Louis Grodecki, Carol Heitz et Pierre Toubert, le monastère, peu à peu, prendre l'aspect d'une cathédrale.
Je voudrais, messieurs, évoquer un dernier problème. Il y a, dans Saint-Bernard l'Arcistercien, un point sur lequel je m'interroge, et j'aimerais ici avoir les avis de gens plus compétents que moi. Si je vous ai bien lu et bien compris, vous faites en quelque sorte du monastère cistercien le modèle de la cathédrale gothique, et là j'ai quelques peines à vous suivre.
Je ne suis pas sûr d'avoir présenté le monastère cistercien comme le modèle de la cathédrale gothique. Ce que j'ai voulu dire surtout, c'est que la spiritualité cistercienne a évidemment a rayonné très largement hors de ces îlots refermés qu'étaient les monastères, et qu'elle a rayonné en particulier sur ces clercs, sur ces intellectuels, sur ces gens d'école que Saint Bernard, comme vous venez de le dire, n'avait pas réussi à dévoyer, mais qui se sont mis à vivre eux aussi comme des pauvres et à considérer par conséquent que le monument qu'ils élevaient, les cathédrales de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, devaient, dans leur forme, dans leur corps, présenter cette rigueur qui faisait peu à peu évacuer tous les fantasmes, tout le rêve, toutes les fioritures, pour revenir effectivement à un décor qui soit extrêmement discret. Cette rigueur aussi qui ramenait au fonctionnalisme. Et c'est en cela que je pense qu'une partie de l'esthétique bernardine, de ce qui dans l'art sortait de la pensée de Saint Bernard, s'est finalement engouffré dans l'art des cathédrales.
Louis Grodecki.
Je crois que, là aussi je ne serai en désaccord avec vous, je pense que l'ère des cathédrales suit une idée du fantastique, du grandiose, du très orné. L'an que vous citez est une de ces cathédrales qui restitue un fantastique par ses tours, par son volume.
Moi je suis d'accord avec Georges de Picard, et je citerai un exemple lointain, celui de mon pays natal, la Roumanie, la Transylvanie. Eh bien, c'est des abbayes cisterciennes, comme Kurtza, par exemple, comme celle de Brașov, qui ont inauguré l'âge des cathédrales, mais je dirais des cathédrales bourgeoises du XIVe siècle dans ce lointain pays.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 1976.